Quelle est la situation géopolitique des États-Unis à la fin du mandat de Joe Biden ? Après la défaite électorale du républicain Donald Trump en novembre 2020 et l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, la démocratie américaine est-elle véritablement sortie de la zone des tempêtes ? L'hystérie du débat public a-t-elle cessé ? Après la pandémie de Covid-19, la présidence démocrate de Joe Biden a mis en place 4 années d'investissement massif dans l'économie. Avec quel résultat ? En matière de géopolitique externe, Joe Biden a-t-il été dans la continuité de Donald Trump ou bien a-t-il mis en place une rupture nette ? Enfin, dans cette élection 2024, quels sont les États qui pourraient faire la différence entre le candidat républicain Donald Trump et la candidate démocrate Kamala Harris ? Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur de recevoir Maxime Chervaux, professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique à l'Université Paris 8. Maxime Chervaux est spécialiste de politique américaine, notamment de la géographie électorale.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Maxime Chervaux, au sujet de la géopolitique des États-Unis à la fin du mandat de Joe Biden, quelle est l'idée reçue qui vous semble inexacte et pourquoi ?
Alors, je pense que plus qu'une idée reçue, c'est vraiment une mise en contexte qui est impérative aujourd'hui avec la politique américaine. C'est-à-dire que on a l'habitude d'en entendre beaucoup parler, d'entendre parler d'élections américaines systématiquement, de sommes faramineuses dépensées pour chaque campagne électorale. On parle cette année de 10 milliards et demi à peu près pour la campagne qui est en cours et qui se termine en novembre. Et je pense que ce qui est indispensable à garder en tête à ce moment, c'est que ces 10 milliards de dollars, cette presse permanente pour les élections, elle est dirigée vers quelques millions seulement des 320 millions d'Américains. Une infime partie des États-Unis, parce que la moitié des Américains sait déjà pour qui ils vont aller voter. Un tiers n'iront pas voter. Et les derniers, les quelques personnes restantes qui peuvent faire basculer un État et donc l'élection au mois de novembre, peuvent se compter, et c'est peut-être 5, 10, 15, 20 000, 30 000 personnes qui peuvent faire basculer un État aujourd'hui. Et donc je pense que c'est cette remise en contexte d'une politique qui prend beaucoup de temps, mais, et qui coûte très cher, mais qui est vraiment dédiée à quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers de personnes.
Maxime Chervaux. 4 ans après la défaite de Donald Trump en novembre 2020 et l'assaut sur le Capitole le 6 janvier 2021, quel risque persiste pour la démocratie américaine ?
Alors, un des plus grands écarts qu'on aperçoit aujourd'hui aux États-Unis, quand même, un des sujets les plus sensibles et les plus importants, c'est ce que représentait l'assaut du Capitole en janvier 2021. C'est-à-dire que Joe Biden, depuis son élection, a mis en avant les questions de démocratie, énormément. On l'a vu dans sa politique étrangère, par exemple, avec le sommet pour la démocratie. Et au même moment, pourtant, au sein même des États-Unis, de vrais doutes existent sur la solidité des institutions américaines, après un tel assaut, mais après une quinzaine d'années vraiment très violentes, où des gestes de violence politique se sont multipliés. Et où un candidat, donc ancien président, aujourd'hui Donald Trump, qui est candidat pour récupérer le poste qu'il a perdu en 2020, passe son temps et sa campagne à délégitimer les élections, et donc l'institution centrale d'un système démocratique et représentatif, à la fois pour dans une optique de remettre en question une éventuelle défaite cet automne, mais également tout simplement parce qu'il refuse d'accepter qu'il a perdu en 2020, même si par moments on a bien cru comprendre qu'il l'avait reconnu, mais que pour lui c'est plus payant de dire que l'élection a été volée, truquée, alors même qu'il était président à ce moment-là et que les États qu'il a dans une certaine mesure perdus ont souvent été des États où les républicains eux-mêmes contrôlaient le système électoral. On le voit notamment en Géorgie et dans l'Arizona à cette époque-là. Et donc il y a aujourd'hui une réelle inquiétude dans un pays où les tentatives de limiter le vote, ou limiter l'accès au vote se multiplient, et où, même dans des endroits que les républicains contrôlent, d'autres républicains critiquent la gestion des élections, et donc simplement le résultat au bout du compte. On le voit au Texas et dans d'autres États.
Mais comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un pays qui se présente volontiers comme exemplaire, comme un modèle de démocratie, évolue dans cette direction ? Et d'autre part, Toujours dans la même question, quel est le rôle des réseaux sociaux dans tout ça? Parce que je me souviens qu'en 2008, lors de la première campagne pour Barack Obama, tout le monde ne cesse beau dire sur l'importance des réseaux sociaux. On a l'impression qu'ils participent plus à l'hystérie du débat qu'à l'information du débat.
Oui, alors... Pour la première partie de votre question, c'est vrai que on présente souvent les États-Unis comme le modèle démocratique par excellence. On est, et d'ailleurs d'autant plus du point de vue français, hein, nous sommes les deux révolutions jumelles qui ont amené un système qui se voulait comme démocratique et représentatif. Il faut, je pense, quand même raison garder du point de vue des États-Unis, car on est dans un système où la moitié du pays, pendant une époque, et même encore jusqu'à une époque très récente, était ségrégée, où les violations du droit de vote étaient communes, et où dans certains endroits, on peut se poser aujourd'hui la question de savoir si la démocratisation de ce, par exemple, ce sud ségrégué, mais pas que, s'est réellement faite. Il y a vraiment des questions importantes, étant donné que il n'est pas encore anodin de voir des gouverneurs ou des membres des exécutifs des États se vanter d'avoir retiré 100, 200, 300, 400 000 personnes des listes électorales à quelques semaines du scrutin. On l'a vu en Géorgie beaucoup en 2018-2020. Un État qui est aujourd'hui un État clé. On le voit beaucoup au Texas. Le gouverneur du Texas s'en est encore vanté il y a quelques semaines d'avoir retiré 500 000 personnes ou 450 000 personnes des listes électorales, pour des raisons diverses et variées. Mais donc, dans les pratiques et même dans les mots qui sont utilisés, il y a encore des sujets qui nous amènent à faire très attention à la démocratisation même des élections américaines. Et dans ce jeu, qui d'ailleurs vient délégitimer le système pour des démocrates comme des républicains, hein, quand vous êtes dans un État républicain et que vous êtes démocrate et qu'on vous annonce qu'on retire un grand nombre de personnes des listes électorales, qu'on change régulièrement l'emplacement des bureaux de vote. On le voit par exemple encore une fois au Texas où tout d'un coup le maire de Dallas a décidé de retirer les bureaux de vote des universités, qui sont quand même le cœur du vote démocrate, du vote jeune et démocrate aux États-Unis. Et de l'autre côté, quand vous êtes un républicain, vous allez aussi invoquer un certain nombre de représentations géopolitiques qui peuvent parfois dater. On revient encore systématiquement à cette question de est-ce que la machine électorale démocrate de Chicago ou de Newark n'ont pas fait basculer ces États pour les démocrates pendant une très longue période, tout simplement en trichant, en allant chercher des votes qui n'existaient pas, ou en bloquant l'accès, en bloquant moins l'accès au vote, mais plutôt en allant remplir les urnes, comme ça s'est probablement fait pendant très longtemps aux États-Unis. Et donc, des deux côté, il y a un imaginaire qui est vite invoqué. Et cet imaginaire, il est aujourd'hui entretenu, alors amplifié, c'est très difficile à quantifier, mais il est au moins entretenu par les réseaux sociaux, c'est vrai, qui ajoute énormément de brouillard dans une élection comme celle-ci. C'est-à-dire que Facebook, Instagram, TikTok, de plus en plus également aussi, sont des endroits où la moindre idée, le moindre mot, la moindre idée fausse d'ailleurs, peut être très facilement véhiculée, trouver une petite caisse de résonance. Bon, voilà, c'est très difficile de savoir si c'est vraiment ça qui va accroître le nombre d'Américains qui ont de moins en moins confiance en leur institution, ou si c'est simplement un endroit où vont se maintenir un certain nombre d'idées fausses véhiculées, sans retrouver d'ailleurs la contrepartie critique qui va venir justement la recontextualiser, voire tout simplement la dénoncer.
Maxime Chiavo, passons maintenant à la géopolitique interne des États-Unis. La présidence de Joe Biden a mis en place 4 ans d'investissement massif dans l'économie, quel est le bilan?
Alors c'est vraiment le gros point que Joe Biden cherche à défendre, c'est-à-dire qu'il a récupéré la gestion des États-Unis, du gouvernement fédéral, à la suite de la crise de la Covid et de la pandémie. Et pour la première fois depuis les années 60, des investissements massifs ont été faits à la fois dans l'économie, donc ça a été les différents plans qui ont commencé sous Donald Trump et qui ont continué sous Joe Biden, qui visaient à aider les Américains justement dans cette période pandémique. On pense par exemple à l'extension du crédit d'impôt pour les enfants, qui était une mesure phare et qui, selon les statistiques, a pu faire descendre la pauvreté chez les enfants de 5 à 10 points aux États-Unis, mais qui a expiré en 2022. de début 2023. Il y a eu ensuite le Jobs Act de 2021 qui a investi plus de 1000 milliards de dollars dans l'économie américaine et notamment dans les infrastructures, ce qui est quelque chose de fondamental étant donné qu'aux États-Unis, si vous allez dans certains États, des fois on peut se trouver du point de vue français extrêmement choqué par la qualité des infrastructures routières, des ponts, des aéroports, notamment dans les en dehors des très grandes villes américaines. Et donc la première fois, une loi bipartisane qui a été soutenue par beaucoup de républicains au Sénat et au Congrès, en général au Congrès américain, a été passée et a investi beaucoup d'argent dans l'économie. Puis, un an plus tard, l'Inflation Recovery Act, qui est venu, lui, investir dans les technologies de pointe, notamment l'IA, mais également les batteries électriques, les véhicules électriques, et dans différents secteurs de l'économie pour décarboner l'économie américaine. Donc, c'était plus de 400 milliards qui ont été encore une fois investis dans l'économie américaine, avec encore une fois des voix républicaines qui sont venues soutenir la préparation de ces travaux. C'est la première fois depuis les années 60 où on voit aussi ce niveau d'investissement dans l'économie américaine, mais également un accord bipartisan pour y arriver. Alors qu'il n'a pas été repris au niveau des candidats ou au niveau de Donald Trump, mais en tout cas, il y avait beaucoup de républicains qui soutenaient, et voire certains qui ont refusé de soutenir à l'époque, mais qui utilisent ces investissements pour leur campagne électorale aujourd'hui. Ted Cruz, le sénateur du Texas, par exemple, a voté contre, mais en pleine campagne un petit peu serrée pour le Sénat en Texas, réutilise ces investissements en disant « voilà ce qu'on a fait pour vous, chers amis texans ». La grosse difficulté, c'est que le côté historique de ces investissements a un petit peu disparu derrière le gros problème qu'a traversé l'administration Biden, mais comme on l'a vu nous aussi en Europe, qui est l'inflation. Et l'inflation aux États-Unis est montée à 9% en 2022, avec des pointes justement là où ça n'arrange pas Joe Biden, c'est-à-dire dans les grandes villes, notamment du Sud, qui peuvent être celles qui peuvent faire basculer un certain nombre d'États. Je pense à Atlanta, on pense à Las Vegas, on pense également à Phoenix dans l'Arizona, où l'inflation en 2022 a pu atteindre 12, 13, 15% à Las Vegas même en un an. Et donc c'est vrai que si la partie énergétique a pu redescendre, c'est-à-dire que le prix de l'énergie a redescendu, et ça c'est à l'avantage de Joe Biden, en espérant que les Américains oublient que l'énergie est montée si rapidement, toute la partie qui concerne les biens de consommation et surtout le logement reste en l'état. Les Américains savent qu'ils vont dépenser 1000 dollars par mois dans certaines villes américaines, de plus qu'il y a 4 ans, pour se loger, se nourrir. Et c'est quelque chose contre lequel Joe Biden et Kamala Harris, qui était sa vice-présidente, doivent se battre aujourd'hui.
Planisphère, pour Radio Notre-Dame et RCF, Pierre Verluise.
Maxime Chervaux, passons à la géopolitique externe. Joe Biden a-t-il été dans la continuité de Donald Trump ou bien a-t-il mis en place une rupture nette ?
C'est la question probablement qui peut être la plus surprenante peut-être a posteriori en regardant 4 ans plus tard. C'est-à-dire que la politique étrangère américaine est un mastodonte à transformer. C'est-à-dire que souvent un mandat ne laisse pas apparaître une dimension particulière à un président par rapport à son prédécesseur, qu'il ait été du même parti ou non. Et c'est vrai que sur un certain nombre de sujets, Joe Biden s'inscrit quand même plutôt dans la continuité de Donald Trump, quand on le voit par rapport dans ses relations avec la Chine, ou les questions de protectionnisme, de concurrence, et tout simplement d'économie sont extrêmement importantes. Le sujet sur lequel Joe Biden a rajouté la question de la démocratie également aussi. Et de ce point de vue-là, les partenariats qui avaient été faits avec un certain nombre de puissances régionales, l'Inde, l'Australie, le Japon dans la région, sont maintenus. Mais d'une certaine manière, la présidence de Donald Trump a été tellement compliqué du point de vue de la politique étrangère, que Joe Biden a, dès le départ, réussi à remettre en place un certain nombre d'éléments qui faisaient partie de la politique étrangère traditionnelle des États-Unis depuis maintenant 50 ans, notamment les questions de défense du multilatéralisme. On l'a vu, une des premières choses que Joe Biden a essayé de faire dès son arrivée, ça a été de rassurer ses alliés, que ce soit les alliés du point de vue pacifique et de l'Indo-Pacifique, avec l'AUKUS, avec le Quad, ces formats de partenariat ont été rehaussé, remis en avant. Et du point de vue européen, c'est l'OTAN. L'OTAN qui a repris sa place également dans, comme un élément central de la politique étrangère américaine. Et d'ailleurs, avec un regain d'intérêt pour l'Europe, on le sait, sous Donald Trump, les relations ont souvent été un peu compliquées du point de vue du protectionnisme américain qu'il a mis en place, sur lequel Joe Biden n'est pas complètement revenu non plus, mais le déclenchement de l'invasion russe totale de 2022 en Ukraine a vraiment remis l'Europe au cœur des priorités américaines. Sur le long terme, on verra bien, mais en tout cas à court et à moyen terme. Et donc la défense du multilatéralisme, la défense des institutions multilatérales comme l'ONU également aussi, mais aussi des négociations internationales pour lutter contre le réchauffement climatique, dans le cadre des COP, ce sont des sujets qui ont été remis sur la table par Joe Biden, dans la continuité de Barack Obama par exemple auparavant. Et c'est vraiment là où on voit déjà dès maintenant une réelle différence avec Donald Trump. Maintenant, tout n'est pas, entre guillemets, reparti comme avant, en tout cas même du point de vue de Joe Biden. Pendant 4 ans, le département d'État a été financièrement asphyxié sous l'administration de Joe Biden, c'est-à-dire il a perdu des centaines de ses membres de son staff. C'était une volonté réelle, tout simplement, de ne pas alimenter financièrement le département d'État. Là où il y a eu des coupes financières à cette époque-là, ça a été notamment au département d'État. Et donc c'est quelque chose sur lequel sont des changements structurels sur lesquels il faudra plus de 4 ans pour réussir à vraiment remettre en place toute l'infrastructure qui existait auparavant, notamment au département d'État, mais pas que.
Sur la longue durée, j'ai l'impression qu'au moins depuis les années Obama, il y a une intention des États-Unis qui est de se concentrer sur la relation avec la République populaire de Chine et de se désengager plus ou moins du Moyen-Orient et de l'Europe géographique. Et finalement, il y a sur ce chemin, sur cette dynamique, des obstacles qui surviennent, imprévus, qui obligent les États-Unis à reprendre à nouveau une partie de ce qu'ils vivent comme un fardeau, soit au Moyen-Orient, soit dans l'Europe géographique.
Complètement. Alors, c'est même d'ailleurs un changement stratégique qui s'est opéré dans les années 2000. On l'a vu, la naissance de cet intérêt pour ce qu'on appelle l'Indo-Pacifique aujourd'hui, ce qui a pu être pendant un moment le détour vers l'océan Indien et puis par la suite vers le Pacifique, c'est quelque chose qui a marqué les États-Unis depuis les années 2000. Et d'ailleurs, qui a eu un impact non seulement dans les relations avec l'Union européenne, mais également avec la Russie. On l'a vu dès l'administration de George W. Bush à l'époque, ou même d'ailleurs sous Barack Obama. Cet intérêt et ce changement à long terme, il sera, par la force des choses, appelé à perdurer. C'est quelque chose qui est lié intrinsèquement avec les intérêts économiques et les intérêts politiques des États-Unis à l'échelle internationale. Cependant, on l'a vu, l'invasion russe de l'Ukraine et le conflit israélo-palestinien dans sa dernière évolution sont deux choses qui ont forcé les Américains à repenser à l'Europe, à repenser au Moyen-Orient, à un moment où ils se désengageaient progressivement depuis un certain nombre d'années. Joe Biden est quelqu'un qui connaît très très bien le dossier ukrainien, étant donné qu'il a été une des figures au Congrès américain dans les années 90, justement de la gestion de l'après-URSS, que ce soit du point de vue de l'Ukraine, des Pays-Baltes et même de la Russie. Donc il connaît très très bien ce sujet. Il avait d'ailleurs des relations assez mauvaises, passables, voire mauvaises avec Vladimir Poutine dès son arrivée au pouvoir. Il faisait partie, sous l'administration Obama, de ceux qui étaient le plus critiques vis-à-vis de la Russie. Et du point de vue d'Israël, c'est le gros problème du Parti démocrate. C'est-à-dire que le Parti démocrate a toujours été critiqué du point de vue des Républicains comme étant pas assez pro-Israël. Et donc, ce qui est très très difficile à gérer du point de vue de Joe Biden aujourd'hui et de Kamala Harris a fortiori, c'est de pouvoir se montrer critique de la politique israélienne sans apparaître comme étant anti-Israël. Et donc, de faire le jeu de Donald Trump et du Parti républicain.
Maxime Chervaux, il est temps d'en venir justement à la géopolitique électorale, puisque la campagne présidentielle 2024 s'achève aux États-Unis. Quelles coalitions et quels États les campagnes républicaines et démocrates cherchent-elles à gagner et pourquoi ?
Ça a été le grand changement de l'été. C'est-à-dire que quand nous sommes partis en vacances à la fin du mois de juin dernier ou courant juillet dernier, le jeu s'était très largement resserré. On l'a vu en 2020, Joe Biden a créé la surprise en récupérant la les États traditionnellement bleus démocrates du Nord, hein, de l'ancienne Rust Belt, la ceinture de rouille, c'est-à-dire le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, et gagner des États qu'aucun démocrate n'avait réussi à gagner depuis des décennies, la Géorgie et l'Arizona, tout en resserrant l'écart en Caroline du Nord, au Texas et dans d'autres États du Sud, qu'on pensait fermer aux démocrates pour la longue durée. Trois ans et demi plus tard, Joe Biden avait atteint un record d'impopularité, on va dire, entre guillemets, notamment du fait de son âge, du fait de sa mauvaise prestation lors du débat qu'il a eu lieu contre Donald Trump. Et c'est vrai que tout le monde s'était dit, bon, il faut qu'il réussisse à garder la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan. Il n'a aucune chance de réussir à regagner l'Arizona, la Géorgie, voire même il va perdre de toute façon le Nevada. Les démocrates avaient commencé de désinvestir dans le Nevada en se disant on a aucune chance de réussir à les gagner. Donc le jeu mathématique pour gagner l'élection présidentielle, c'était étroitement resserré pour Joe Biden. L'arrivée de sa vice-présidente comme candidate démocrate durant l'été a complètement changé la donne. C'est-à-dire que du point de vue démocrate, on va continuer son effort pour garder les États du Nord, qui sont les États qui avaient permis l'élection de Donald Trump en 2016, mais on va investir massivement dans ces États du Sud, qu'on pense pouvoir gagner de nouveau, voire même d'autres États où on pense pouvoir faire la différence. Est-ce que aujourd'hui la Caroline du Nord est atteignable pour un candidat démocrate? C'est pas arrivé depuis Barack Obama en 2008. Voire même, est-ce qu'on pourrait réussir à regagner la Floride, que Barack Obama a gagné deux fois, mais qui s'est écarté très largement des démocrates les deux élections par la suite. Et donc, du coup, le jeu est grand ouvert, en sachant que, et c'était d'où le propos introductif qu'on a eu, une élection aux États-Unis se fait au suffrage universel indirect, donc du coup, on vote pour des grands électeurs qui ensuite donnent la victoire à un camp ou à un autre, et un État, État clé, peut se gagner à quelques milliers de voix, quelques dizaines de milliers de voix. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un investissement massif aujourd'hui, à travers la carte électorale. Donc, on fait partie de... C'est une de ces élections où le nombre d'États clés peut atteindre la petite dizaine, ce qui est quand même rare ces derniers temps aux États-Unis. Et du point de vue de Kamala Harris, elle a réussi à réélargir la carte électorale, et donc du coup à mettre en difficulté Donald Trump dans une élection qu'il pensait déjà quasiment actée. Et il y avait des raisons de penser que le jeu favorisait largement Donald Trump il y a deux mois. Aujourd'hui, on est sur du 50-50, avec cet double investissement à la fois dans la Rust Belt pour gagner ici les voix de la classe ouvrière, mais également des populations noires et des jeunes, et dans le Sud, où du point de vue des démocrates et des républicains, les populations à essayer de gagner, ça va être notamment les populations latino. Qui grossissent et grandissent en proportion dans la population américaine en âge de voter, mais qui ont tendance à ne pas aller voter en grand nombre également. Donc ça va être tout l'enjeu de ces élections, et il va falloir regarder 8 à 10 États pour voir qui va gagner l'élection présidentielle de novembre prochain.
Et vous êtes spécialiste du Texas. Quid du Texas ?
Alors, le Texas, c'est vraiment la grande interrogation aux États-Unis. On est dans un État qui, aujourd'hui, est un État qu'on appelle majoritaire-minoritaire, c'est-à-dire que vous avez la population de blanche qui, il y a encore 20 ans, représentait une majorité de la population. Aujourd'hui, elle est une minorité de la population, à peu près 38-39%, alors que la population hispanique est montée à 39-40%. Et si on regarde la trajectoire électorale d'États comme la Californie, comme l'Arizona, le Nevada, qui ont suivi cette trajectoire électorale il y a 20 ans, ils sont tous devenus des États démocrates. Mais le Texas, non. Le Texas, pour l'instant, c'est un petit peu resserré, mais les républicains ne sont pas en danger. Et c'est justement là où un certain nombre d'éléments dans l'organisation même des élections, mais même du jeu politique au Texas, nous amènent à nous poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire que quand un gouverneur se vante de retirer 450 000 personnes des listes électorales à 6 semaines des élections, 8 semaines des élections, il y a peut-être une partie d'entre eux sont des personnes qui sont décédés naturellement, qui ont changé d'état, qui n'ont pas répondu à des courriers leur demandant de vérifier, de confirmer leur adresse. Mais la manière même de vendre les choses laisse à penser qu'il y a une volonté de maintenir la pression sur l'électorat, voire même de choisir dans cette mesure l'électorat. On le sait, il y a des enquêtes qui ont été faites, notamment à El Paso, hein, sur la frontière avec le Mexique, où des populations, notamment hispaniques, latino, disent qu'elles ont peur d'aller voter. Et c'est quelque chose qui est, à mon sens, un héritage encore de la période ségrégée aux États-Unis, hein, et de toute tout ce long début du XXe siècle. Et il y a encore des pratiques qui existent, qui nous amènent à penser que ce n'est pas simplement des comportements électoraux différents, mais que dans un état où la participation atteint 50-55%, il y a vraiment une volonté de trier qui va aller voter, et encore une fois cet automne, pour les élections présidentielles.
Maxime Chervaux, si vous deviez nous conseiller une lecture pour suivre le processus des élections aux États-Unis, quelle serait cette lecture ?
Je pense que je renverrai vers un classique. Je renverrai vers le roman de Robert Penn Warren, Les Fous du Roi, qui parle d'un candidat populiste et sa gestion du pouvoir. Parce que ça reste encore, malheureusement, vraiment d'actualité aujourd'hui aux États-Unis.
Merci Maxime Chervaux. Un grand merci également à notre réalisateur, Guillaume Nougaret. Planisphère recevait Maxime Chervaux, professeur agrégé à l'Institut français de géopolitique, spécialiste de politique américaine, notamment de la géographie électorale. Chères auditrices, chers auditeurs, à la semaine prochaine.